Bonjour, vous écoutez l'épisode 66 du podcast Les Petits Plus Zen. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Aujourd'hui, dans ce mois de juillet, vous allez écouter une room qui parlait de l'impermanence de nos vies de famille. C'est une room que j'ai enregistrée en décembre, donc il y a 6 mois, et qui parlait de l'articulation entre le développement de l'enfant, donc neuromoteur, psychologique, intellectuel et émotionnel, et ses impacts sur la logistique de la famille, sur la maturité des relations aussi entre les parents et les enfants au sein du foyer, et qu'en apprivoisant de plus en plus notre cheminée des émotions, nos braises, et puis en comprenant mieux les rayures de besoin de chacun de nos enfants, on allait pouvoir plus précisément apprécier l'impermanence de notre vie au quotidien, peut-être voir en nous ce qui résonnait, voir ce qu'on ne pouvait pas contrôler, ce sur quoi on devait absolument lâcher prise. Je vous souhaite une très belle écoute.
L'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment on peut appréhender un peu notre parentalité en fonction d'une notion de croissance, une notion d'impermanence et une notion aussi de réparer les liens. Donc soit les liens avec nos enfants, soit les liens avec nos parents, soit même les liens parfois à nous-mêmes, puisque c'est parfois difficile de voir la différence entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait et ce qu'on pense avoir vécu avant et qui continue à laisser une certaine empreinte sur notre vie présente. Donc l'idée est de voir déjà que notre petit enfant, donc si vous avez des enfants dans la salle, Naomi et Zepha, notre petit enfant, chaque jour, il fait des nouvelles découvertes, chaque jour, il apprend des nouvelles choses et chaque jour, il perfectionne finalement à la fois ses gestes, à la fois sa motricité, sa connaissance du monde, son langage, ses expériences. Il est en train de mettre à jour sa base de données. Il est en train d'empiler les connaissances les unes sur les autres, de les trier, de les garder, de les jeter et de faire l'expérience patiemment de tout ce qui lui reste à accomplir plus tard et de tout ce qu'il a déjà accompli avant. Ça ne se fait pas spontanément, il faut qu'on l'aide un peu à conscientiser ça. Donc à l'école, quand j'étais enseignante, on parlait de métacognition, c'est-à-dire que l'enfant, on le rend conscient de tous les efforts qu'il fait et de toutes les choses qu'il réussit à faire. Donc ça peut être à base d'encouragement, ça peut être des petites phrases comme « Waouh, maintenant tu sais mettre tes chaussures tout seul, avant tu n'y arrivais pas » ou « Tu arrives à porter le pain, tu as grandi, bravo, tu sais faire des nouvelles choses, tu as appris des nouvelles choses, tu es plus fort, tu es de plus en plus fort » et donc de conscientiser avec votre enfant ce qu'il est capable de faire comme nouvelle acquisition, comme nouvelle compétence. Et jour après jour, ces activations, en fait, ces conscientisations de ses compétences vont l'aider à se rassurer sur les choses qu'il n'arrive pas encore à faire. C'est-à-dire que la zone d'apprentissage, elle est souvent très vaste pour un enfant, mais vous allez voir que tout à l'heure, on va arriver vers la zone aussi des adultes, puisqu'on fonctionne encore comme ça à l'âge adulte. Donc, quand on a des enfants ou des élèves, on passe une partie de notre journée à leur dire ce qu'ils font de bien, à leur dire aussi ce qu'on trouve qui pourrait être amélioré et à leur dire aussi ce qu'on aimerait qu'ils changent dans leur comportement. Et puis, arrivés à l'âge adulte, nous-mêmes, on est un petit peu démunis ou désemparés parce que plus personne ne fait ce job pour nous, en fait. Plus personne ne nous valide, plus personne ne nous encourage, plus personne ne nous complimente et on est parfois encore dans cette quête-là alors qu'on est devenu adulte. Donc l'idée n'est pas de renforcer le lien pour qu'on soit dépendant de ce lien avec notre enfant. L'idée, c'est de l'autonomiser et de lui donner les outils pour qu'il se sente suffisamment capable de s'autoriser lui-même à nourrir ses propres besoins de validation, ses propres besoins d'authenticité, d'évolution, de croissance, d'autonomie. Donc toutes les rayures de son arc-en-ciel de besoins. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un épisode de podcast, donc le numéro 7, qui définit toutes les rayures de l'arc-en-ciel de besoin de chaque enfant et de chaque adulte. Et là, dans les derniers épisodes, vous avez aussi le détail approfondi de la rayure rouge, donc l'épisode 30. Et là, aujourd'hui, est sortie la rayure verte, la rayure d'autonomie. Donc cet enfant-là, quand vous lui donnez un peu des notions, des mots, quand vous verbalisez ce qu'il réalise, ce qu'il fait, vous le rendez indépendant pour plus tard, vous le rendez autonome pour nourrir ses propres besoins. Et en quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que plus tard, il n'aura pas besoin de s'accrocher à quelqu'un d'extérieur à lui pour avancer. Il n'aura pas besoin de s'accrocher à une sorte de dépendance, qu'elle soit affective, professionnelle, sociale, familiale. Et il mènera son chemin où lui a envie, où ses projets le portent, où ses valeurs le portent et où ses émotions le portent. Et en ça, c'est un cadeau inestimable d'autonomiser chacun de nos enfants et chacun de nos élèves pour que plus tard, ils fassent ses propres choix et qu'ils mènent ces expériences enfin de façon libre. Donc c'est très ambitieux, hein, bien entendu, mais j'aime bien sur ces rooms et puis dans le podcast vous ouvrir à d'autres champs de conscience sur la parentalité pour qu'on prenne ensemble la mesure de tout ce qui est possible de faire jour après jour pour qu'ensuite les enfants puissent à leur tour faire évoluer les mentalités, les générations et peut-être, alors on n'est pas dans une révolution complète, mais peut-être instaure un peu plus de bienveillance et d'équité au jour le jour. Donc cette conscientisation des besoins de votre enfant, de ses efforts, de tout ce qu'il arrive à faire, de ses apprentissages, c'est une des clés pour que plus tard, il soit au clair sur ses braises de cheminée des émotions. Alors je fais un petit point pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai plusieurs outils pour accompagner les mamans que je suis, à retrouver du temps pour elles et à apaiser les émotions en famille. Parmi ces outils, vous avez l'arc-en-ciel des besoins, donc qui est dans l'épisode 7 du podcast que vous trouverez dans ma bio. Et il y a aussi la cheminée des émotions qui est dans l'épisode 9 et 10 du podcast. Donc dans cette cheminée, on l'a tous, hein, tous ceux qui sont dans la room, que vous soyez en direct ou en replay, vous avez une cheminée des émotions près de votre cœur qui est livrée à la naissance. Seulement, on n'a pas le mode d'emploi. Parfois, les parents ne nous donnent pas le mode d'emploi de cette cheminée des émotions. Et donc, c'est à nous, en grandissant, de chercher en quoi la flamme s'active, pourquoi elle s'active, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été l'étincelle, le déclencheur extérieur, qu'est-ce que j'ai pensé de cette étincelle extérieure pour que ça mette une flamme en moi. Donc, parmi les flammes, vous connaissez les 6 émotions principales de tristesse, de colère, de joie, de honte, de dégoût ou de peur. Donc parmi ces flammes-là, en ce moment même, vous avez des flammes d'émotions à l'intérieur de votre cheminée. Donc ce que je vous invite à faire, notamment par le scan des émotions, c'est de voir combien de flammes vous avez en ce moment dans votre cheminée, comment elles s'appellent, est-ce que vous arrivez à les nommer facilement, parce que des fois derrière de la peur se cache en fait de la colère, ou derrière de la colère se cache des fois de la tristesse. Donc d'observer comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions, quelles sont vos flammes. Et ensuite, quand vous avez analysé vos flammes, de voir ce qui les a déclenchées. Parce que dans nos combustibles, à l'origine, quand on est tout petit, et donc les enfants aussi, ont pratiquement que des allumes-feu. Vous savez, les petits carrés qui ressemblent à des plaquettes de chocolat, ça s'embrase très vite, ça part au quart de tour, et les enfants sont très vite joyeux, très vite en colère, ont très vite peur. C'est instantané. Sauf que c'est des enfants, c'est normal. On va leur apprendre à remplacer progressivement les allumes-feu par une réflexion, donc par des bûches un peu moins combustibles, peut-être des bûches de jour, peut-être des briquettes. Et puis, avec l'âge, on arrive à coordonner, à apaiser un peu ses émotions et à se dire, bon, en ce moment, je vois que certaines choses m'affectent. Si elles m'affectent, c'est que j'ai encore des choses à régler avec moi-même, avec mes besoins, avec mes envies, avec mes projets. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que je voudrais faire et ce que je vis vraiment. Et donc, je vous invite à plonger dans votre cheminée et de vous dire comment ça se passe pour vous à ce moment-là, quelles sont vos braises, quelles sont vos bûches et comment ne pas les réactiver pour les émotions qui ne nous font pas de bien. Évidemment, si c'est une émotion comme la joie, vous avez tout intérêt à la réactiver spontanément et à vous dire dans ces cas-là, je vais chercher quasiment les choses qui m'aident à enflammer cette bûche de joie, des choses qui vont me donner envie de continuer à être joyeuse pour ma soirée et tout ça. Et en ce sens-là, les braises, c'est des indicateurs, c'est des informations à introspecter, à faire le point avec nous-mêmes et de nous dire quand je sais bien quelles sont les braises dans ma cheminée, je deviens moins réactive à la réalité extérieure. Je deviens moins sensible aux déclencheurs extérieurs. Par exemple, hier, j'ai pris la voiture pour emmener ma fille au centre de loisirs et je vois que sur ma voiture, qui était pourtant garée en zone bleue avec le macaron de résident à l'intérieur, je vois que j'ai un papier de contravention pour stationnement interdit. Donc, bien entendu, ça, c'est le déclencheur. Le déclencheur, j'ai un papier de contravention sur ma voiture. Et l'étincelle, en fait, qui va vers ma cheminée, à ce moment-là précisément, c'est « mais c'est pas juste, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai reçu ça sur ma voiture ?» Donc l'étincelle qui enflamme ma cheminée des émotions à ce moment-là, qui part dans une certaine colère, qui part dans une certaine peut-être tristesse aussi, parce que l'injustice, elle peut être à la fois sur la colère et l'injustice, réveille en moi un besoin justement de compréhension. À ce moment-là, j'aimerais comprendre pourquoi ça s'est passé. Un besoin d'équité, que les gens qui soient en règle ne soient pas contraventionnés, ne se prennent pas une amende. Et donc, j'analyse ma flamme de l'intérieur et ensuite, j'analyse ce qui s'est passé à l'extérieur de ma cheminée des émotions. Et dans ce cas-là, je vous invite souvent, que ce soit dans les rooms ou sur les autres rendez-vous que j'ai aussi sur les posts Instagram, à vous dire, c'est un des besoins de notre arc-en-ciel qui a réagi avec ce déclencheur. Là, clairement, moi, j'étais en règle. J'étais dans mon bon droit. Ma voiture était à un bon endroit. Je n'avais aucune raison de voir un papier de contravention. Donc, la première action, c'est de me dire, je ne trouve pas ça équitable, je ne trouve pas ça juste, je ne comprends pas. C'est donc sur mes besoins à la fois de sens, à la fois d'identité et à la fois d'indépendance d'être stigmatisé en quelque sorte avec ce papier sur mon pare-brise. Quand j'ai identifié le déclencheur, quand j'ai identifié le besoin, je peux ensuite passer à comment apaiser cette flamme. Comment apaiser cette flamme de colère en moi? Comment apaiser cette flamme de tristesse en moi d'avoir reçu cette contravention pour l'exemple d'aujourd'hui, mais vous prenez ça avec votre vie personnelle, bien sûr, et de vous dire, maintenant que je sais ce qui l'a déclenché, la pensée aussi, que c'est pas juste, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, ce manque de sens, je vais essayer d'apaiser ma flamme en reformulant, par exemple, donc ça c'est un des outils que j'utilise aussi, la reformulation positive, en disant, ce papier est là, sur mon pare-brise. Ce papier ne veut pas forcément dire qu'une contravention va arriver dans ma boîte aux lettres. C'est un papier qui indique que ma voiture est mal stationnée. Déjà, je ne suis pas sûre d'avoir la contravention. Donc ça, c'est une étape de reformulation. Je ne peux pas présager de ce qui va se passer dans une semaine, dans deux semaines. On est dans l'imprévisible, on est dans l'impermanence. Le fait réel, c'est j'ai un papier sur ma voiture. Ensuite, une deuxième reformulation, c'est peut-être que la personne qui a mis ce papier n'a pas bien fait attention au macaron ou à l'emplacement ou a mis ça un peu à la va-vite. Donc, j'essaye de réfléchir à ce que la personne a pu vivre à ce moment-là pour me mettre ce papier et à reformuler en me disant « Bon, ça n'a rien à voir avec moi, je ne le prends pas personnellement, notamment par rapport aux accords Toltec, par exemple. Ce papier est sur mon pare-brise, mais je ne le prends pas personnellement, puisque je suis sûre d'être dans mon bon droit, je suis sûre que mes valeurs sont là et je n'ai pas à m'inquiéter puisque je ne suis pas dans la situation qui est écrite sur ce papier. » Donc cette deuxième reformulation peut m'aider aussi à apaiser ma flamme, dans ce sens que la personne qui a mis ce papier a peut-être mal vu, a peut-être été trop vite, a peut-être pas fait attention, etc., etc. Et donc ça décentre un peu ma responsabilité. Et ça m'apaise dans ma flamme, soit de colère, soit de tristesse. Et puis, un dernier outil, c'est de se dire, on verra plus tard ce qu'il se passe. Ça veut dire ne pas présager, rester vraiment dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, j'emmène ma fille au centre de loisirs. Dans l'instant présent, ce papier est sur ma voiture, mais pas la contravention. Dans l'instant présent, je n'ai rien à payer, je n'ai rien à justifier. Donc avec ces trois outils-là, la cheminée des émotions, donc analyser le déclencheur, le combustible, le besoin qui a clignoté à ce moment-là du fait extérieur, regarder ensuite en reformulation le fait extérieur et de se dire qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est de mon fait? Est-ce que je suis responsable de ça? Est-ce que j'ai un lien avec la situation? Ou est-ce que je suis dans mes valeurs habituelles? Je n'ai rien à voir avec ça, je ne le prends pas personnellement et je me dis à cet instant-là, il n'y a rien de grave, à cet instant-là, il n'y a rien à agir, il n'y a rien à réagir. Et là, vous avez plein d'outils en pointillés pour vous refaire ce chemin-là avec votre propre cheminée des émotions, pour vous dire, bon, là, il m'arrive quelque chose qui me met en colère ou il arrive quelque chose qui me rend triste. On en a parlé notamment hier dans la room sur comment survivre aux fêtes de famille et aux discussions un peu qui piquent. Donc, vous remplacez la situation de la contravention sur la voiture par n'importe quelle situation que vous avez vécue cette semaine ou qui vous inquiète pour les fêtes à venir et vous introspectez votre cheminée des émotions, votre arc-en-ciel des besoins et ensuite vous essayez de reformuler ou de prendre de la distance en montant dans « je ne suis pas responsable de ça, je me détache, je ne le prends pas personnellement » avec les accords Toltec, ou encore de dire « dans l'instant présent, il ne se passe rien de grave » et donc de remettre de la temporalité dans cette émotion en disant « je peux redescendre mon émotion, je peux apaiser ma flamme puisque cette flamme ne va pas dégénérer tout de suite et plus tard, on verra, on verra. » Donc pour certains qui m'avaient entendu parler de cette idée des braises dans la cheminée des émotions, j'avais eu une remarque comme quoi ça pouvait ressembler aussi à certaines blessures qui n'étaient pas cicatrisées. Donc tout à fait, c'est un des points qu'on pourrait aborder dans une autre room, hein, dans l'idée que pour continuer notre croissance, pour continuer à avancer, il est plus confortable de faire le point régulièrement sur ce qu'on n'a pas encore soldé, pour ce qu'on n'a pas encore cicatrisé en nous. Parce que sinon, ces blessures peuvent se réouvrir. Donc, quelle que soit la blessure dont on ait encore certains symptômes ou certaines cicatrices, je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, hein, qui a popularisé les 5 blessures de l'âme. Donc, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et de vous dire, est-ce que encore en 2021, vous ressentez parfois cette blessure en vous? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme information sur le besoin qui n'est toujours pas nourri depuis ce temps-là. Donc peut-être de revisiter cette situation seule ou avec un ami. Nous, on fait ça en binôme empathique, en CNV, donc dans les binômes de communication non violente. Donc on explore une situation qui laisse encore des traces et des cicatrices difficiles en nous. Et on va chercher à ce moment-là de la situation, donc dans le passé, quelle était notre émotion ? Quelle était notre cheminée de l'époque? Quel était notre besoin ou notre rayure qui clignotait sur notre arc-en-ciel de besoin? Donc tout ça, si vous réécoutez ensuite les épisodes de podcast 7, 9 et 10, vous allez avoir plus de clés pour le faire tout seul en autonomie. Et puis après, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me demander sur Instagram plus particulièrement comment on fait pour scanner tout ça. Et une fois que vos blessures sont un peu apaisées, une fois que vos braises sont un peu apaisées dans votre cheminée, vous voyez le monde extérieur de façon beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et finalement le filtre devient plus doux. Parce que quand on s'autorise, nous, à aller mieux, à cicatriser, à faire la paix avec nous, on a moins envie de faire porter au monde extérieur nos blessures, nos critiques, notre façon un peu négative de dire « c'est sûrement de la faute de quelqu'un d'autre hein. ». On a beaucoup d'insatisfaction sur le travail, sur le voisin, sur nos enfants. Et on peut parfois, à tort, leur faire porter la responsabilité de notre propre flamme d'émotion, de notre propre insatisfaction. Donc je vous invite à creuser quand quelqu'un vous énerve à l'extérieur, quand un enfant vous rend dingue par son action, l'action de l'enfant n'est qu'un simple déclencheur. Ce déclencheur appuie sur une de vos braises, appuie sur un de vos besoins non nourris, et bien souvent, c'est parce qu'on ne se l'est pas accordé avant. Le plus classique quand j'accompagne des mamans, c'est des mamans qui ont besoin de calme, de silence, de repos. Et quand elles ont enchaîné toute la journée dans le brouhaha, dans la vitesse, dans la rapidité, dans la performance, et que l'enfant arrive à 19h pour faire sa colère, il a tout à fait le droit de faire lui-même sa colère. Mais nous, en l'état actuel de notre journée, on ne peut plus supporter une autre flamme dans notre cheminée parce qu'on est déjà un peu à bout. On est déjà entouré de braises dans notre cheminée. Et dès qu'un enfant ou qu'une remarque de notre conjoint ou qu'une remarque de notre mère ou une remarque de notre voisine, ça peut déclencher, être l'étincelle finale parce qu'on n'a pas soigné pendant notre journée toutes les braises qui se sont accumulées dans notre cheminée des émotions. Donc dans cette idée de croissance, de chaque jour faire un petit pas comme les enfants quand ils apprennent une nouvelle notion, une nouvelle compétence, je vous invite à regarder comment c'est pour vous dans votre propre cheminée des émotions. Quelles braises vous pouvez travailler cette semaine. Il y a un nouvel outil qui sortira bientôt pour travailler ces braises-là. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram pour ceux qui veulent suivre la suite des outils. Là, il n'y en a que 3 qui sont publiés pour l'instant. Et de réunifier en fait à la fois l'émotion à chaque fois à un besoin. Ça va beaucoup vous aider à faire le point vous-même. Et si vous avez des enfants, à presque leur apprendre cette technique-là aussi pour que les enfants ne disent pas de toute façon c'est de sa faute à lui. Parce que les enfants nous imitent beaucoup, hein, c'est la puissance du modèle qui est dans l'épisode 6 du podcast. Les enfants nous imitent tellement que quand ils voient un adulte dire oui c'est de sa faute, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. C'est... Quand un enfant observe un adulte qui se déresponsabilise, qui se désolidarise de sa propre émotion et de la propre causalité hein, de cette émotion du coup, en disant j'ai rien à voir avec tout ça, c'est pas moi et tout, l'enfant se dit bon bah c'est comme ça qu'on s'occupe de ses émotions, c'est comme ça qu'on gère nos problématiques, nos besoins, et il n'a pas d'autre source d'identification puisqu'il travaille en neurones miroirs l'enfant, que de faire comme l'adulte. Donc je vous invite comme bien souvent à faire l'outil déjà sur vous-même et ensuite de partager cette connaissance de l'outil avec peut-être votre partenaire de vie, avec peut-être votre meilleur ami et avec ensuite vos enfants, bon, qu'ils aient quand même au moins 4 ans, je pense, pour bien comprendre cette notion-là, mais de dire, cette cheminée, elle est là de toute façon. Tu vas avoir des flammes toute la journée, tu vas avoir des flammes toute la semaine, tu vas avoir des flammes tout le mois, donc n'hésite pas à plonger dans ta cheminée, à regarder comment tu es devenue triste. Est-ce que tu es devenue triste parce que ta copine a dit qu'elle ne pouvait pas te prêter sa poupée? Est-ce que tu es devenue triste parce que tu voulais aller au spectacle et qu'on a dit que c'était fermé ou qu'il n'y avait plus de place? Donc, de retrouver la chaîne qui a déclenché cette flamme depuis le fait extérieur qui est neutre, hein, comme le papier de contravention, jusqu'aux besoins qu'on a identifiés comme non nourris, et ensuite de trouver ce qui va vous faire du bien et ce qui va vous faire redescendre. J'en ai parlé un petit peu dans la room d'hier, donc qui parlait de la communication avec des gens qui critiquent. Donc je vous les redonne aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là hier ou qui n'écoutent pas les replays dans l'ordre. Donc on a parlé hier de respiration, hein, de vraiment reprendre un peu comme l'outil de l'instant présent que je vous disais pour la contravention, de dire là tout de suite il n'y a rien de grave, là tout de suite je fais le point en moi et je me dis je verrai si la situation mérite plus d'attention, mais en l'état je redescends, je respire, je suis vivant, tout fonctionne en moi, j'ai des émotions, ça veut dire aussi que je suis vivant et ça c'est plutôt bon signe. Parfois, les gens détestent avoir des émotions fortes, mais c'est quand même un signe qu'on est vivant. Il y a bien des gens qui aimeraient encore avoir des émotions alors qu'ils sont un peu grabataires sur leur lit de maison de retraite. Donc, c'est aussi une chance de pouvoir ressentir tout ça. C'est aussi une force. Et ensuite, au-delà de la respiration, donc il y a la reformulation positive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi le fait de se détacher de la notion de contrôler le monde, de la notion de contrôler ce qui va pouvoir se passer. Donc dans le titre, là, vous voyez, il y a la notion de croissance, donc j'ai commencé par les enfants, mais il y a aussi la notion d'impermanence et de se dire, ce qui se passe aujourd'hui, demain, je ne sais absolument pas si ça va continuer, si ça va changer, si ça va évoluer, si je vais le maintenir en l'état. C'est exactement comme les fleurs de votre jardin. Vous avez beau tout faire pour les soigner, pour les arroser, il peut, ça peut arriver que les fleurs dépérissent, ça peut arriver que d'autres graines poussent, ça peut arriver que l'animal soit subitement malade, ça peut arriver qu'il se mette d'un coup à pleuvoir. Et cette notion d'impermanence, on se voile souvent la face quand on est jeune, on se voile souvent la face même en vieillissant. Il y a des adultes qui ne veulent pas voir cette notion d'impermanence et qui restent dans une maîtrise et dans un contrôle complètement illusoire de se dire « je vais faire comme je pense, je vais faire comme je veux, à la limite je vais même forcer et je suis sûre que ça se passera comme je le décide et comme je le veux ». Donc c'est un peu ambitieux, je pense que c'est presque même égotique, hein, de se dire « je vais avoir une maîtrise totale sur le monde extérieur, je vais avoir une maîtrise sur les événements, je vais même avoir une maîtrise sur ce que les gens vont penser, dire ou faire ». Donc revenons tranquillement, hein, en toute humilité à soi, et de se dire « je vais d'abord me dire moi ce que j'ai envie, mes valeurs, mon identité ». Travaillons bien notre rayure jaune, hein, d'identité, parce que c'est une des plus importantes, notamment quand on a un épisode de dépression, un épisode de burn-out, un épisode de grande crise existentielle. Si vous avez traversé ça vous-même, généralement, tous les thérapeutes, tous les accompagnants, tous les coachs qui vont suivre quelqu'un qui ne va pas bien, tous les psychologues, vont repartir sur qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs, quel est votre projet de vie, quelle est votre ambition. Et pour ça, il faut faire le point avec soi, au lieu de dire « oui, mais les vaccins ceci, oui, mais les candidats cela, oui, mais les journalistes ceci ». Tout ça n'est pas notre vie. Tout ça sont des éléments extérieurs à nous. Pour savoir où on veut aller, il faut se poser à un moment donné et se dire « bon, moi, dans la mesure du possible, quels sont les projets que j'ai envie de mener ?» Et ensuite, j'observerai les éléments extérieurs pour me dire « ah ben je vais m'appuyer sur ça, ou je vais plutôt éviter ça, ou je vais m'appuyer sur ça. » Et puis peut-être que j'aurai des bonnes surprises, parce que ça fait aussi partie de l'impermanence, de se dire « il va y avoir des choses inattendues sur ma route, des bonnes, des moins bonnes. Je vais saisir au vol les bonnes, et puis les moins bonnes, je me dirai « bon, c'est une information. Qu'est-ce que je fais de cette nouvelle information? Est-ce que j'ai envie d'avancer avec cette nouvelle information ou pas ?» Et à chaque instant, de me dire « je peux renouveler ma confiance dans ma prise de conscience, je peux renouveler ma confiance avec ce que je pense de mon projet et de me dire, même si j'ai 3 jours de retard dans cette tâche, même si mon projet n'avance pas aussi vite que je veux, l'essentiel est d'avoir une direction et l'essentiel est d'avoir un but et un objectif. Après, tout ce qui va se passer sur notre chemin, sur notre route vers cet objectif, on ne peut le maîtriser totalement. On peut très bien prévoir une super sortie le week-end prochain et que le week-end prochain, il pleuve à torrent et que la sortie soit mise en doute, mise en situation difficile. Donc, on ne pourra pas contrôler tout ce qui va nous arriver, que ce soit vers le futur, et aussi, on ne pourra pas contrôler tout ce qu'on a déjà vécu. Par contre, on peut le revisiter. On peut essayer de le comprendre et en le comprenant, ça nous devient plus facile de se dire « ah, bah, puisque j'ai vécu toutes ces choses-là, j'en ai tiré des conclusions, j'en ai tiré des expériences de vie, j'en ai tiré vraiment une certaine force, une certaine singularité, puisque les gens autour de moi n'ont pas vécu les mêmes choses que moi et tout ce que j'ai vécu peut me servir plus tard à me sortir d'une nouvelle situation qui ressemblerait ou à conseiller un de mes proches qui tomberait dans cette même situation ou un de mes enfants et juste pour témoigner de tout ce qu'on a appris, de toutes ces informations qu'on a pu glaner dans nos expériences bonnes ou mauvaises. Et en ça, l'impermanence de ce qu'on va vivre dans le futur est aussi difficile à accepter que l'impermanence de ce qu'on a vécu parce que des fois, on reste bloqué sur « ouais, mais il m'est arrivé ça et ça, et du coup, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça. » On se base sur des fausses excuses presque pour dire c'est pas juste. Hein, une fois de plus, on en revient à cette notion d'injustice. Et si c'est une notion qu'on a envie de porter, cette notion de justice, c'est à nous de renverser la responsabilité en disant que ce qui m'est arrivé ce moment-là n'était pas agréable. Ça a été une flamme difficile, mais elle m'a appris des éléments sur moi. Elle m'a appris peut-être une manière d'agir différente pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas dans la mesure du possible. Donc, sur ces éléments-là, de l'impermanence et de la croissance, je suis toute prête à évoquer d'autres situations que vous aurez vécues. Donc, n'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram, soit sur le site ou sur votre plateforme de podcast. S'il y a une messagerie, ça peut arriver. Et de se dire, cette impermanence, vous l'observez tous les jours, vous l'observez dans la nature, vous l'observez avec les saisons, vous l'observez avec les températures, vous l'observez avec vos enfants, avec vos animaux. On ne peut pas contrôler un enfant, on ne peut pas contrôler un animal. C'est impossible de prévoir de façon complètement certaine ce que votre animal, ce que votre enfant va faire, va réagir. Ce n'est pas une machine. Donc, dès qu'on est face à un être humain, à un être vivant, on se rend compte de l'imprévisible, de l'impermanence, de l'incomplétude aussi, hein, si vous voulez aller plus loin sur cette notion-là, de se dire, mon enfant, j'aurais beau lui apprendre tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai lu, il fera son propre chemin, il fera sa propre expérience de vie, et en aucun cas je vais le remplir de ma vie à moi. Il fera, lui, ses choix, son tri, et il verra lui-même ce qui lui est utile pour sa vie d'adulte, pour sa vie future. Donc, en se reliant au présent, en se reliant à ce qu'on observe, en se détachant aussi de la responsabilité de tout, parce qu'on peut avoir fait un super dossier et que finalement, le patron décide de ne pas le présenter, eh bien, nous, on a fait le travail. Ça peut nous mettre en colère, ça peut nous rendre triste, mais nous, on a fait le travail consciencieusement. Donc, remplacez vraiment par une situation que vous avez vécue, qui vous a mis vraiment en colère, qui vous a fait peur, qui vous a rendu triste, et de vous dire qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a aidé à comprendre de mes propres besoins, de mes propres fonctionnements intérieurs. Et cette situation, si jamais elle se reproduisait, qu'est-ce que je pourrais en déduire sur soit mon organisation, ou alors sur peut-être ma réaction, donc soit dans l'anticipation, soit dans la réalisation des conséquences. Est-ce que si la prochaine fois que je fais un dossier vraiment très bien construit et que mon patron refuse de le présenter en réunion, cette fois-ci j'irai le voir ou je lui parlerai avant? Donc est-ce que je vais ajuster mon comportement à ma prise de conscience de cet événement sur ma cheminée des émotions? Et là, ça veut dire que vous serez dans une croissance et vous serez dans un fonctionnement sans cesse d'améliorer à la fois la régulation de vos émotions avec votre cheminée et à la fois la conscience de vos propres besoins. Et c'est un va-et-vient qui va être sur toute la vie, sur vraiment une notion d'individualité complète, parce que personne ne pourra le faire à votre place. À un moment donné, vous trouverez peut-être des gens qui vont vous guider, qui vont vous accompagner, mais c'est une tâche individuelle, c'est une tâche personnelle. Et on voit même qu'avec chaque enfant, les réactions sont différentes. Avec chacun de vos amis, les réactions peuvent être différentes. Avec votre partenaire, d'un jour sur l'autre, les réactions peuvent être différentes. Et cette impermanence, vous regarderez à partir de l'écoute de ce replay ou de cette room, de vous dire, demain, je vais accepter que je ne peux pas tout contrôler, que je ne peux pas tout prévoir, et que ce qui va m'arriver dans la journée, ce qui va m'arriver avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mon patron, avec ma voisine, avec mon ami, va me révéler des informations sur moi. Et je pourrais picorer au fil de ma journée plein de nouvelles choses que je n'avais peut-être pas vues en moi, des nouvelles flammes que j'aurais plus facile à identifier dans son déclencheur, dans son combustible aussi, parce que plus on va travailler sur une situation qui nous blesse ou qui nous fait mal, et moins on sera sensible la prochaine fois au déclencheur extérieur. Donc, en mettant beaucoup plus de conscience sur ce qui a déclenché notre flamme, on pourra la prochaine fois presque anticiper, presque réguler notre flamme d'émotion pour qu'elle ne nous brûle pas complètement, pour qu'elle ne nous consume pas complètement, au point qu'on ne puisse pas continuer notre activité, au point qu'on envoie promener la personne en face de nous en la rendant responsable, en disant « ouais, c'est de ta faute, c'est toujours à cause de toi », et à ne pas assumer notre propre émotion et notre propre responsabilité. Donc voilà plusieurs points différents hein, qui concernent à la fois la croissance des enfants, à la fois la nôtre, hein, que vous soyez parent ou non, c'est valable dans les deux cas. On a parlé un peu du regard de l'autre hier, hein, donc si vous avez déjà écouté la room d'hier en replay, on disait que le regard de l'autre aussi n'est qu'une information sur ce qu'on ressent. Quand on se sent critiqué par une remarque de l'autre, c'est sans doute qu'à ce moment-là, il touche à un petit point de besoin de notre arc-en-ciel qui n'avait pas été nourri. À ce moment-là, il a peut-être mis le doigt sur quelque chose que nous, on aurait à travailler. Peut-être que c'est une braise qu'on pourrait explorer, une blessure qui n'est pas cicatrisée. Ou alors, c'est peut-être un besoin qu'on s'est dit « oui, on verra plus tard, on verra plus tard ». Mais à force de voir plus tard, ben, on est mal à l'aise, on est dans une régulation émotionnelle un petit peu instable. Et donc, l'autre, par ses actions, par ses critiques, par ses gestes, peut révéler, une fois de plus, des choses qui vont nous aider à grandir, qui vont nous aider à croître et à accepter l'impermanence extérieure et du coup, l'incomplétude intérieure. Et j'en profite pour redire, je le dis au début de l'épisode 30, mais il n'est pas question de remplir à chaque fois tous nos besoins, tous les jours. C'est absolument impossible. Par contre, je vous invite à faire des scans réguliers de toutes vos rayures de l'arc-en-ciel pour que vous puissiez voir si aujourd'hui vous êtes plutôt équilibré dans votre rayure de détente, si vous êtes plutôt équilibré dans votre rayure de compréhension, d'expression, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous gratte, quelque chose qui vous pique dans une des rayures et qui mériterait à ce moment-là d'être pris en considération pour éviter que ça s'enflamme la prochaine fois que quelqu'un viendra vous marcher sur le pied. Donc voilà, plusieurs éléments. J'avais prévu aussi sur ma petite liste de vous parler aussi des routines. Donc j'aime bien ce thème des routines parce qu'on en parle beaucoup en parentalité. Et la routine, ça nous libère du temps de cerveau disponible parce qu'on fait des choses un peu automatiques. Donc ça a des très bons côtés, notamment pour les enfants. Mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'impermanence, les routines, si vous êtes vraiment dans des routines très strictes, je vous invite aussi à mettre un peu d'air dans vos routines, à changer de chemin, à voir, à changer de plat, à changer de mode d'achat, de jour de course, pour mettre justement de la nouveauté et pour mettre une nouvelle conscience sur le monde qui vous entoure, peut-être de changer complètement de manière de jouer, de parler, de danser, de musique, et de mettre de la nouveauté dans votre vie pour reprendre conscience de tout ce qu'on rate en fait à étant toujours dans des schémas très précis, très routiniers. Donc d'alterner les routines qui vraiment vous font du bien et vous font gagner du temps, parce que le temps, hein, c'est un de mes outils bien sûr, de prendre du temps de qualité avec soi et avec les gens qui nous sont chers, mais d'aérer un peu nos routines. Et de se dire que on a parfois des activités dans notre journée qui vraiment nourrissent nos besoins, hein, qui sont des vrais temps de qualité, des vrais tequils, mais parfois dans nos journées, on a des activités qui sont plutôt des activités de procrastination, hein, de fuite, de diversion, des activités qui pourraient cacher une fois de plus une de nos émotions en se disant « ouais, là, j'ai pas trop envie de me mettre à cette tâche-là, hein, que ce soit étendre la lessive, finir mon dossier ou appeler les impôts. J'ai pas trop envie de faire cette tâche-là, je vais plutôt me mettre sur Instagram ou je vais plutôt finir ma série ou je vais plutôt aller courir. » Oui, pourquoi pas. Mais au retour de cette activité secondaire, ben, l'activité primaire n'aura pas été faite. Et là peut redéclencher une flamme d'émotion contre nous presque, hein, de frustration, de colère, parce qu'à ce moment-là, au lieu de foncer dans ce qui clignotait, au lieu de foncer dans ce qui aurait nourri plus avant nos besoins, on s'est un peu éloigné, on est un peu parti dans un essai différent et de se dire les nouvelles activités peuvent nous nourrir. Et puis parfois, quand vous choisissez une nouvelle activité, quand vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire dans votre journée, demandez-vous est-ce que cette activité-là que je suis en train de faire, elle nourrit un ou plusieurs de mes besoins vraiment. Si c'est pour se détendre, si c'est pour avoir du calme, se ressourcer, on l'a fait en pleine conscience et on est très content de ça et ça devient un tequila. Et si c'est une activité qu'on fait pour éviter un problème, pour fuir, pour vraiment faire diversion, pour s'échapper de la situation ou ne pas vouloir regarder en face une émotion qui commence à monter en nous, et bien avec la pratique, vous allez voir que vous allez les repérer plus facilement. Et du coup, je vous souhaite vraiment de les repérer de plus en plus vite, ces activités un peu de fourre-tout et de procrastination, pour que vous puissiez vraiment vivre la journée que vous voulez, non seulement la journée, mais surtout les projets que vous vous êtes définis, la mission que vous vous êtes appliquée, l'objectif final que vous avez prévu dans votre vie. Voilà, j'ai coché les 7 points que je voulais vous dire dans cette room. Je ne pensais pas à réussir à les faire en 40 minutes. Maodo, tu as été un auditeur absolument exceptionnel. Merci pour ta patience et ton écoute. J'ai rendez-vous avec des mamans sur Zoom à 20h. Donc, je ne sais pas si tu voulais y participer. Donc, si tu veux y participer, n'hésite pas à regarder le code sur l'Instagram en story. Et puis sinon, je te dis à très vite. Il y aura le replay de cette room si ça fonctionne bien. Et puis, je vous souhaite à tous ceux qui écoutent en replay un très bon tequil à vous. Donc, des très bons temps de qualité à vous. Et de vous dire vraiment, prenez le temps de scanner votre arc-en-ciel des besoins. Prenez le temps de scanner votre cheminée des émotions pour libérer aussi vos proches de vos humeurs, de vos critiques, de vos réactions. Prenons vraiment une responsabilité de nous à nous, au lieu de faire porter au monde extérieur toutes nos frustrations. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.
Merci pour votre écoute, vous avez bénéficié de cette room Clubhouse. Clubhouse, c'est vraiment une application gratuite. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à créer un compte sur votre application. C'est uniquement réservé au téléphone, donc cherchez sur votre Apple Store ou sur votre Store comment charger l'application. En ce moment, c'est 2 personnes en noir et blanc sur fond blanc qui apparaissent, donc Clubhouse. Et puis, vous créez votre compte, c'est gratuit et vous pouvez accéder à toutes les discussions en ligne. Vous pouvez taper les petits plus zen, vous retrouverez le club. Vous retrouverez une 60aine de replays, donc en solo ou alors dans le club des petits plus zen. Et vous pourrez après vous promener vraiment comme un hall de discussion dans tous les thèmes qui vous intéressent, que ce soit l'entrepreneuriat, la philosophie, les mathématiques, les NFT, il y a des rooms surtout. C'est assez fascinant de voir la multiplicité des thèmes. C'est vraiment multiculturel, multilangue. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette application, peut-être que cet été sera l'occasion de la découvrir. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre room. Et je vous souhaite vraiment une très belle écoute, une très belle semaine. À très bientôt, au revoir.